La marche du monde.
Dès qu'il chantait, on disait « c'est le griot de Manta ». On reconnaissait la voix de Kandia. Nos grands-parents ajoutent des noms pour le respect. Ils lui ont donné le surnom de Kandia. Mais son vrai nom, c'est Ibrahima Sori Kouyaté. Sans cesse, son père prenait soin de lui. Les blancs, les noirs, tous louaient Kandia. Kandia a été prédestiné pour ça. Sa voix, c'est inné. Pour sa voix, c'est un don de Dieu.
Comme le diamant, la voix de Sori Kandia Kouyaté, le plus grand de tous les griots de Guinée sur RFI, pour une marche du monde dédiée à son histoire méconnue. Sori Kandia Kouyaté est médaillé d'honneur du Festival panafricain d'Alger en 1969 et grand prix de l'Académie Charles Cros en 1970. Il est aussi la voix de la révolution culturelle de Sékou Touré. C'est donc en Guinée que nous partons, grâce à Laurent Chevalier, réalisateur du film Sur les traces de Kandia, puisqu'il a proposé au fils du célèbre griot de retourner sur les traces de son père.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour et merci, Kaby Kouyaté, d'être avec nous pour témoigner de votre voyage initiatique que vous a proposé Laurent Chevalier sur les traces de Sori Kandia Kouyaté, votre père. Qu'est-ce que ce film a changé pour vous?
Mais merci Valérie de m'avoir invité au studio de RFI.
Au grand studio.
Au grand studio, je vais. Oui. Ce que ce film représente pour moi, ça représente une délivrance, puisque imaginez un fils qui, pour la dernière fois, est 24 décembre, et son père lui confie un document en partant pour un spectacle, et il n'a jamais revu ce papa à l'âge de 45 ans. Aujourd'hui, c'est une délivrance pour moi, puisque c'était un devoir. Même mes frères dans la famille, l'aîné de la famille, a constaté que il faut que je fasse quelque chose pour cet héritage que le papa a laissé dans la famille. C'est grâce à une personne qui a cru à moi, qui m'a fait venir en France pour enregistrer auprès de Célar Productions une compilation pour rendre hommage à la musique guinéenne Kouyaté Kouyaté, où j'ai repris les 16 titres des Bembeya, des Keleti et Oreya Ban, etc. Et puis 12 titres de mon papa. Donc, ça partit de là-bas et la conscience commençait à s'installer à moi.
Laurent Chevalier, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est vous le responsable de cette entreprise, et je dis bien entreprise car vous avez réussi la prouesse de réveiller la mémoire de Sori Kandia Kouyaté à travers la mémoire des musiciens de l'ensemble instrumental de Sori Kandia Kouyaté, mais aussi en exhumant des archives filmiques extraordinaires. Et j'aimerais que vous nous disiez un mot tout de suite sur ces quelques images que l'on voit dans votre film.
Mais en fait, on en a cherché beaucoup, mais on en trouve très peu d'archives. pour la simple et bonne raison que la Guinée, comme la plupart des pays africains, n'ont pas eu le souci d'archiver leur mémoire. On commence à s'en soucier aujourd'hui, mais c'est un peu tard parce que la plupart sont malheureusement dans un triste état. Et à la fin du régime Sékou Touré en 84, quand les militaires ont pris le pouvoir, les techniciens de la télévision ont dit aux artistes « Venez chercher les bandes parce que les militaires vont tout mettre au pilon. » Il fallait nettoyer cette période révolutionnaire, dire que la Guinée avait changé. Et donc toute cette partie liée à la révolution, toute cette culture liée à la révolution, les traces devaient disparaître. Et on a pu retrouver certaines de ces traces, certaines bandes, des bandes de pouces. Hein, on fait plus ça maintenant en télévision, des bandes de pouces dans des malles métalliques, dans des caves ici de boutiques de musique du 18e arrondissement.
Donc, comment elles sont
à Paris ?
Ici, c'est à Paris.
Hein. Ici, c'est à Paris. Ouais, oui, absolument. Ouais. Comment elles ont transité de la Guinée à Paris ? En combien de temps ça s'est fait ? Comment on a remis la main dessus ? Mais il y a des documents effectivement qui n'étaient pas connus en Guinée, qui sont réapparus à l'occasion de ce film.
Alors tout commence donc par ce départ pour le village de Manta, là où est né votre père en 1933. Vous allez revoir les doyens. Qu'est-ce que vous allez apprendre que vous ne saviez pas sur votre père dans ses premières rencontres au village ?
D'abord, quand j'ai eu des entretiens avec Laurent à Paris, moi, je lui ai dit, bon, attends, Laurent, avant de commencer quoi que ce soit, il faut qu'on aille au village. Puisque c'est là où le papa m'a tiré la main pour m'amener, pour me présenter, me montrer les endroits qu'il tenait au cœur. Il dit, il avait des blagues même qui me disaient, il dit, bon, tu as vu cet espace-là, un jour je vais construire ici l'aéroport de Manta. Et puis quand tu dis ce genre de choses à un enfant, c'est un rêve. Donc quand papa m'a amené là-bas, et je suis venu rencontrer les sages là. Il y en a qui ne vivent plus aujourd'hui, mais il y a d'autres qui sont là, tels qu'avec ses amis. Et ils ont fait l'enseignement coranique et puis tout ça. Et avec la chance, ils m'ont apporté plein de choses qui m'ont montré les endroits mystiques, comment les choses se passaient avec mon père et mon grand-père, comment ils le préparaient. Puisque lui, il a perdu sa maman à l'âge de 3 ans. Donc, il a grandi dans la main de son père et sa tante. Donc, il y a toutes ces histoires-là qui m'ont remotivé et j'ai appris plein de choses qui m'ont poussé. J'ai dit, ça, ce sont des éducations qui peuvent être transmises le jour d'aujourd'hui.
Parce que Kahabi, vous avez connu votre père jusqu'à l'âge de 12 ans.
12 ans,
donc,
oui.
Vous avez eu une transmission,
oui.
Mais maintenant, en tant que chanteur, en tant qu'adulte, en tant que personnage du film de Laurent Chevalier, lorsque vous retournez à ce village de Manta, vous comprenez des choses que vous n'aviez pas compris lorsque vous étiez enfant.
Ce que j'ai compris, c'est l'éducation et la persévérance et le respect d'un être humain dans cette vie-là. Rien ne vaut une éducation. Rien ne vaut dans cette vie un suivi des parents. Puisque un enfant, il faut le préparer avant qu'il grandisse. Et surtout, l'initiation, surtout dans notre culture.
La façon dont votre père lui-même a été initié ?
Oui, la façon dont il a été initié et préparé et enseigné dans l'école coranique. Et lui aussi, il a pris un autre enseignement à l'école de la vie, qui est école culturelle de la vie moderne.
Et enseigner aussi en tant que Kouyaté.
Kouyaté, par rapport à l'histoire millénaire qui se transmet de père en fils et de génération et de génération.
L'histoire de Soundiata.
Soundiata, Keta et puis d'autres, surtout l'histoire de la vie. Puisque les griots, il a été appris que les griots, nous sommes des témoins oculaires de l'histoire de l'Afrique, surtout mandingue.
Ça c'est nous. On a fait Dakar, on a fait la Sierra Leone, on a fait le Libéria, on a fait Bamako toute une nuit avec Fauzi, le journaliste de l'Afrikazi. On a passé toute une nuit. Mais lui, si Kanja était une denrée alimentaire à manger sur table, Fawzi l'aurait mangé, cru. À cette époque, les messages de Kanja étaient tellement forts que lorsqu'il passe sur une scène, comme dans l'auditorium du Palais du Peuple, ce jeune qui était assis au fond de la barre, il écoutait ce qu'il disait, Kanya. Les artistes guinéens, c'était des guerriers. C'était des gens... Naturellement, c'est des artistes de combat pour la paix, pour l'unité, pour la décolonisation de l'Afrique. C'est-à-dire que tu n'avais pas besoin de dire à quelqu'un, va à l'école pour chanter, pour jouer la musique. Tous les Guinéens avaient même esprit. On avait un monde culturel bien éduqué, bien façonné, bien rangé en République de Guinée. Kanya, il a été un homme béni.
La puissance vocale de Sori Kandia Kouyaté, le griot de Sékou Touré dans La Marche du Monde, une voix en or, une voix exceptionnelle qui n'a pas échappé au leader révolutionnaire. Sékou Touré découvre Kandia alors qu'il est encore adolescent. Nous sommes en 1951 et il va l'inviter à Conakry. Florent Mazzolini. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de l'épopée de la musique africaine paru aux éditions Hors Collection. C'est un livre consacré au rôle des grands orchestres et aussi des griots dans le projet politique de Sékou Touré, en tout cas en ce qui concerne la Guinée. Vous démarrez évidemment par le Ghana, le berceau de toutes les révolutions et de toutes les musiques au fond panafricaines. C'est pourquoi je vous pose la question, pour quelles raisons Sékou Touré s'intéresse-t-il à Kandia ?
Et Sékou Touré, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, a une vision très éclairée, celle du folklore modernisé et de l'authenticité culturelle. Il a été le premier, nonobstant le Congo, le Ghana, effectivement, il a été le premier à mettre en place une politique de soutien étatique à toute activité culturelle, que ce soit dans le domaine des ballets nationaux, du théâtre, du cinéma et surtout de la production musicale. Au lendemain de l'indépendance de la Guinée, dans les premiers jours du mois d'octobre 1958, il lance un orchestre national, qui est l'orchestre de la garde républicaine de Guinée. Et ainsi, au fil des années, il y aura jusqu'à 7 orchestres nationaux qui vont être les garants de la représentation de la Guinée à l'étranger. Et dans un registre solo, Sori Kandia Kouyaté va devenir cette voix de la révolution, va devenir en quelque sorte le chantre de la révolution guinéenne. C'est lui qui va propager cette conscience politique éclairée culturellement dans le monde entier.
Alors avant l'indépendance, Florent Mazzolini, Kandia s'installe à la baie, au cœur même du Fouta Djallon. Il fonde son premier ensemble traditionnel, puis il va ensuite intégrer les ballets africains de Keïta Fodéba. Et dans votre livre, vous insistez énormément sur la valeur artistique et originelle de la démarche de Keïta Fodéba en ce qui concerne la future révolution culturelle de la Guinée.
Oui, tout à fait, car Keïta Fodéba, en même temps que Sékou Touré, a cette vision de créer un ensemble panafricain. Puisqu'au sein des ballets africains, qui par la suite deviendront les ballets africains de Guinée, ou les ballets nationaux de Guinée, au sein de cet ensemble des ballets africains, on retrouve des musiciens de la Sierra Leone, du Mali, du Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Congo. C'est donc la première fois que des musiciens africains vont pouvoir tourner à travers le monde. Et c'est ainsi que Sori Kandia Kouyaté va se faire connaître en jouant à Belgrade, en jouant en Chine, aux États-Unis, en France, comme au Théâtre des Champs-Élysées à Paris à la fin des années 50. Et Sékou Touré est conscient de cela, et c'est ainsi qu'il nommera par la suite Keïta Fodéba ministre. Il a conscience que la musique et la culture, en tous les cas, il dira souvent, nous n'avons pas de fusil, mais nous avons notre culture. Il va faire en sorte que cette culture pluriséculaire guinéenne soit confrontée à cette modernité, celle des studios d'enregistrement, celle des cuivres, celle des guitares électriques, pour en faire un ensemble assez hétérogène, mais qui va rayonner à travers toute l'Afrique.
Kaby Kouyaté, votre père, Kandia, c'est cette voix pure, exceptionnelle, ce mezzo-soprano incroyable, naturel, mais c'est aussi un compositeur, c'est aussi un créateur. Vous avez cité le fait que votre grand-mère, que la maman de votre père est décédée alors que votre père était très jeune, il lui a dédié une chanson.
Tout à fait. Il lui a dédié une chanson. Bon, cette chanson, ça s'appelle Na. Na, ça veut dire ma maman. Et il était vraiment, je peux dire, d'un côté, il avait la nostalgie de sa mère qu'il n'a pas connue, mais la sœur de sa maman qui l'a élevée, il était trop attaché à celle-ci aussi. Donc, il a même donné le nom à sa première fille, qui s'appelle Mariam. À chaque fois quand il chante Na, c'est comme si sa maman a été toujours là, parce qu'il y avait toute une organisation autour de lui, que ce soit sa sœur, que ce soit et d'autres personnes, pour essayer de ne pas qu'il pense à ce moment douloureux, quoi. Donc, Na a été composé par lui, surtout au temps de Fodeba Keita.
Au temps des ballets africains.
Ballets africains.
Voilà, c'est important d'expliquer qu'il y a déjà tout un art de Kandia avant, évidemment, l'indépendance de la Guinée. Laurent Chevalier, si je vous dis Farafina, quelle séquence de votre film nous racontez-vous?
Farafina, quelle séquence je vous raconte?
Est-ce que je sais de quelle séquence votre film vous revient?
Oui, non, mais parce que Farafina, c'est, je veux dire, je comprends, je parle pas complètement sa langue, mais je comprends quand même qu'elle a certains mots. Voilà. Non, ça, c'est le début d'une chanson. C'est une histoire assez magique parce qu'en fait, Kandia, on a parlé tout à l'heure de musique moderne, de cette façon dont Sékou Touré avait prôné la modernisation du folklore, hein. Mais Kandia, surtout, moi c'est là où je suis vraiment impressionné, avait sous sa direction un ensemble instrumental national de 45 musiciens. Que des instruments africains, 5 balafons, 4 koras, 3 flûtes pastorales, etc. Donc cet ensemble instrumental, on a cherché avec Kaby à le retrouver. Il existe toujours aujourd'hui, il y a toujours un ensemble instrumental à Conakry qui a plus la splendeur de l'époque révolutionnaire. Et tous les pionniers de cet ensemble instrumental, beaucoup sont décédés. Mais on a pu les convoquer puisque le fils du directeur cherchait à les rencontrer. Donc les vieux doyens étaient là. Et à un moment donné, ils ont fait sortir Kadé Diawara, qui était la chanteuse qui chantait avec Kandia, qui était la voix féminine de cet ensemble instrumental, qui a la voix maintenant un peu fatiguée. Et ils ont interprété Malissa Dio. Et au moment donné où c'est le rôle de Kandia de chanter, là, Kaby n'a pas pu se retenir. Et ils ont entendu dans cette acoustique particulière de cette salle préfectorale qui leur sert de lieu de répétition, d'un seul coup, la voix revenir. Voilà, et du coup, ça a déclenché dans le film une autre façon de au lieu d'aller chez les uns, chez les autres, d'essayer de recueillir quelques témoignages, on a retrouvé là, parmi tous ces vieux musiciens, un carré de 4 vieux monsieur.
Allez, on les cite.
Amadou Camara, Bolon, Macan, Tonton Nilon et Tonton Sambaori qui fait le violon. Donc c'est des gens qui sont à la retraite puisqu'à l'époque ils étaient artistes nationaux, c'était des fonctionnaires d'État. Donc l'État leur a dit aujourd'hui, désolé mais on va vous donner une petite retraite mais on n'a plus besoin de vous puisqu'il faut laisser les jeunes dans l'ensemble instrumental. Donc ils sont retraités et nous on leur explique ça n'existe pas la retraite, c'est pas, pour un artiste c'est pas... Et ils nous répondent, oui mais ça on le savait pas, c'est maintenant qu'on le découvre.
Vous écoutez RFI, la marche du monde.
Suite de la marche du monde sur les traces de Sori Kandia Kouyaté, le griot de Sékou Touré à la recherche de l'histoire méconnue de la plus grande voix jamais enfantée par la Guinée. La France sera la première à l'accueillir sur scène en 1956. Suivront le Royaume-Uni, la Belgique, l'Allemagne fédérale. Kandia sillonne toute l'Europe, y compris l'Est, l'URSS, jusqu'aux États-Unis et la Chine l'accueille émerveillée.
Kandani groupe où il voit ou disque où l'état Olympia
en France.
En France.
Il était question que Kandia aille en France à l'Olympia.
Mais c'est quoi que l'état de la macarne à quel état?
Mais c'est que Touré était jaloux.
Parce qu'à ta fait. La Guinée, la fin finale, échouée.
Pour lui, la culture guinéenne ne devait pas échouer. Il s'est battu pour ça. C'est au blanc de venir honorer Kandia chez lui. Ça doit être comme ça. Kandia ne doit pas partir. Sékou Touré n'a pas voulu. C'est à eux de venir honorer Kandia chez lui. Ils doivent envoyer le disque ici, devant son peuple, pour qu'il voit que les Blancs ont fabriqué un disque d'or.
Quelle langue?
En mandingue.
Évidemment.
Malinké.
Malinké.
Précisément.
Soir ici, la voix exceptionnelle, mezzo-soprano du griot Sori Kandia Kouyaté. Guinée, Côte d'Ivoire, Gambie, Sénégal, le succès de Kandia est immense. Un rayonnement panafricain et international, envié par le père de l'indépendance, Ahmed Sékou Touré, celui qui a dit non au général de Gaulle en 1958.
Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage.
Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. C'est la célèbre phrase lancée par Sékou Touré à De Gaulle. Les Guinéens votent massivement non au référendum de 58. Ils ne rejoignent pas la communauté française. Ils préfèrent leur indépendance. Et nous retrouvons nos trois invités, Kaby Kouyaté, le fils de Sori Kandia Kouyaté, Laurent Chevalier, le réalisateur du documentaire sur les traces de Kandia, et Florent Mazzoleni, l'auteur du livre de référence, L'épopée de la musique africaine. Tous les trois, ils reviennent sur le rôle de Sori Kandia Kouyaté, de son ensemble instrumental, La Voix de la Révolution, dans la révolution culturelle en Guinée. Florent Mazzoleni, Sékou Touré a dit non à De Gaulle. Qu'est-ce que ça change à ce moment-là pour les artistes, musiciens et chanteurs guinéens? Parce qu'il y avait évidemment de multiples orchestres qui existaient déjà.
Il y avait des orchestres, mais essentiellement des orchestres coloniaux qui jouaient des valses, qui jouaient des tangos, un peu de musique afro-cubaine. Mais très vite, donc au lendemain de l'indépendance, Sékou Touré instaure par décret présidentiel la création d'ensembles dans la trentaine de départements que compte le pays, d'orchestres modernes. Il envoie un émissaire en Italie chercher des instruments modernes. Dans toutes les petites préfectures de Guinée, on assiste à une forme de compétition, une émulation visant à recruter les meilleurs éléments, les meilleurs danseurs, les meilleurs chanteurs, les meilleurs solistes. Et tout ce petit monde réalise une compétition à Conakry tous les ans.
Il y a donc des musiciens, mais aussi des chanteurs, mais aussi des danseurs, mais aussi des comédiens.
Et des hommes de théâtre également. Il y avait cette tradition, il s'agissait de revitaliser les traditions ancestrales de Guinée, tout en les confrontant à des moyens de création moderne, notamment en créant un studio d'enregistrement, en créant une maison de disques aussi, ça c'est unique en Afrique, la régie d'État Cellifone, qui est la seule maison de disques financée par l'État de Guinée. Il y avait aussi dans une moindre mesure le Sili Cinéma de Guinée, en référence à l'éléphant Sili de Guinée, l'éléphant nain de Guinée, une
l'éléphant
espèce endémique.
Nain, symbole
de la Guinée. De la Guinée, bien sûr. Et donc on avait cette volonté de faire rayonner les artistes guinéens à travers déjà leur propre pays, à travers la Guinée, mais aussi à travers l'Afrique et in extenso à travers le monde, bien sûr.
Florent Mazzolini, les artistes sont financés par le parti, par le pays. Sékou Touré a une volonté de booster l'authentique culture guinéenne, mais au service tout de même d'une idéologie. Quelle est la mission qu'il assigne aux artistes ?
Déjà, faire le chant et les louanges en la pure tradition du djellia, enfin du griotisme mandingue, du PDG, Parti démocratique de Guinée, et puis de son leader, hein, Ahmed Sékou Touré, puisque déjà la Régie Siliphone publie 4 ou 5 volumes consacrés à ses poèmes militants, à ses discours. Et c'est ainsi que Sékou Touré lance également des concours auxquels participe Souris Kandia Kouyaté, mais aussi le Bembeya Jazz, pour exalter la culture nationale guinéenne. Et c'est ce qui donnera l'un des plus grands récitals de Guinée, le regard sur le passé du Bembeya Jazz, qui démarre à la fin des années 60, où on rend hommage à la mamie Samori Touré, dont se réclamait ouvertement Sékou Touré, bien sûr, mais aussi à tous les héros de la révolution guinéenne et à tous ces tenants d'une idéologie socialiste qui, bien sûr, sont loués et sont promus et très considérés en Guinée jusqu'au moment des nombreux coups d'État du début des années 70 qui vont commencer à mettre à mal le régime de Sékou Touré.
Kandia chante la révolution guinéenne, mais aussi zambienne. Kandia chante la révolution de la Zambie, de tous les peuples fraîchement libérés. Kandia tourne dans le monde entier avec les nouveaux ballets africains de la République de Guinée. Alors vous, le fils, comment pourriez-vous définir son art ? Vous nous avez parlé de l'éducation, de la formation au village de Mantin, du griot qui est votre père, Kandia. Comment peut-il conjuguer son rôle traditionnel de griot avec la volonté de propager la révolution culturelle que lui intime Sékou Touré?
Son art était purement et simplement une réalité. Quand j'écoute certaines de ses chansons, ce n'était pas un personnage qui était là pour essayer de cacher une façade, pour glorifier quelque chose où il n'est pas d'accord. Il était convaincu de certaines choses. En même temps, c'était un homme qui aimait dire la vérité. S'il n'est pas d'accord, quel que soit tes rangs sociaux, il te laisse, il reste chez lui.
Mais l'art de votre père préexiste, oui, à la révolution guinéenne. Et au moment de la révolution guinéenne, Sékou Touré, presque jaloux de l'aura de Kandia, propulse Kandia dans ce rôle, oui, de la voix de la révolution. Comment Kandia peut-il donc faire cette sauce dans son art ?
Il était un conseiller, je peux dire comme ça. Il était un conseiller de Sékou, puisqu'il disait à Sékou ce que Sékou ne voulait pas entendre. Il y a Fodéba qui est arrêté.
Fodéba Keïta, donc le créateur des ballets, de ballets, va être arrêté, effectivement.
Il a critiqué ça. Il est allé à la radio, puisque les seules armes d'un griot, c'est ce qu'il dit dans ses paroles griotiques. Il était contre cette arrestation. Il y a même des gens qui sont allés dire à Sékou, ah, ce qui s'est passé, on a arrêté Fodéba Keïta. Mais Kandia n'est pas d'accord là-dessus. Il a enregistré une chanson, Sakodou, la première version, qui est contre cette politique. C'est là où il dit Minalao Molu Bana. Minalao, c'est-à-dire les bienfaisants. Il n'y a plus de gens qui font du bien dans cette société-là. Il y a une personne aussi qui est arrêtée. Où on va avec ça? Mais, malgré tout, Sékou a écouté. Donc, moi, je me souviens bien, il n'était pas un personnage qui est là, qui marchait ses mots. Malgré les mythiques de Sékou Touré, Sékou Touré l'écoutait. Parce qu'il venait chez lui, avec d'autres ministres même. Il appelait Sidiki Diabaté, le père de Toumani Diabaté, du Mali, avec Batoul Sékou, plein de ces artistes-là, des griots-là, qui venaient, qui pouvait ressourcer Sékou pour lui montrer la façade de la réalité de la vie. Donc voilà son rôle, puisque ceux-là aussi, c'est des griots authentiques. Donc voilà comment Sékou Touré était bombardé dans la réalité de la vie auprès de son griot.
Kaby Kouyaté, sur les traces de son père, Souris Kandia Kouyaté, dans le film de Laurent Chevalier, sur les traces de Kandia.
À Conakry, La grande salle de spectacle a conservé le nom de Palais du Peuple. À la demande de Sékou Touré, les Chinois avaient construit cet édifice imposant, destiné aux cérémonies de la Révolution. C'est ici que Candia réussit par la magie du verbe propre au plus grand des griots, à obtenir la paix entre deux chefs d'État africains alors en guerre, le président Lamizana de la Haute-Volta et le président Moussa Traoré du Mali.
Avant, à Cotonou, ça n'a rien donné. En France non plus. À l'ONU, même chose. Sékou Touré les a invités. Et après deux jours, les discussions n'ont rien donné. Il a fait appel à Candia. Il lui a dit, c'est à toi d'essayer.
Et il a chanté, il a loué leurs ancêtres. S'ils acceptent de dialoguer, ce sera pour le bien de tous. Il a dit à ces deux présidents, Traoré et Lamizana, devant Sékou Touré, que du lever au coucher du soleil, le monde entier les observe. Ils se sont levés. Ils se sont embrassés.
La légende de Candia, l'histoire incroyable de la réconciliation scellée entre Lamizana, le président de la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, et Moussa Traoré, président du Mali, grâce à la voix d'or du griot de Sékou Touré, Sori Candia Kouyaté. Réconciliation officialisée par la déclaration commune des deux présidents à Conakry le 10 juillet 1975, suite à leur conflit frontalier. C'est une scène très très forte de votre film, Laurent Chevalier. La petite histoire croise la grande histoire. Quelle est la mémoire de Candia en Guinée? Son histoire est méconnue, mais en Guinée, sa mémoire est-elle encore vive?
Dans l'ancienne génération, elle est plus que vive. C'est resté une légende. Donc quand on parle de Candia, quand on parle d'autres chanteurs actuels, on dit oui, mais il y a les chanteurs, et puis à côté, il y a Candia. Candia, il est vraiment mis à part, hors catégorie, tellement sa voix était... Mais ça reste valable. Salif Keita, à qui on parlait de Candia, dit mais personne n'a égalé la voix de Candia.
Salif en personne.
Oui. Et on parlait tout à l'heure du Palais du Peuple, on parle du Palais du Peuple là pour cette réconciliation entre chefs d'État, mais peut-être que ce qui a aidé Candia d'une certaine façon, je ne sais pas, hein, pour avoir cette voix... Il était le chanteur de la Révolution. Au-delà du griot de Sékou Touré, je pense qu'il a été vraiment... Quand on va dans d'autres pays africains, c'était Candia, l'indépendance africaine. Ça va au-delà de chanter les louanges d'un chef d'État. C'était un chef d'État qui avait su dire, on met de côté la musique étrangère, on s'attelle à notre folklore, on montre que l'Afrique a une richesse, qu'elle a une culture. Et les Myriam Makeba étaient en Guinée à l'époque, citoyennes d'honneur, et les Salif Keita étaient aussi en Guinée.
Je veux dire, il a chanté Mandjou.
À Mandjou, ça va au-delà de cet artiste guinéen. Et quand Candia devait se produire sur la scène du Palais du Peuple, c'est ce qu'un de ses anciens artistes explique. Il y avait des pannes de courant, puisque à l'époque, on n'avait pas du courant tout le temps. Donc, des pannes de sonorisation. Donc, normalement, on arrête le concert, puisqu'il n'y a plus de sonorisation. Et le rôle de Candia, c'était justement de ne pas arrêter ce concert. La Révolution ne pouvait pas avoir un petit problème. Donc, on n'entendait plus que les tam-tams, les balafons derrière. On entendait moins la cora. Mais par contre, la fierté de Candia, c'était de savoir qu'à la fin du concert, les spectateurs ne s'étaient pas rendus compte qu'il y avait une coupure de courant. Tellement sa voix était capable de passer au-dessus de la foule devant des milliers et des milliers de personnes. Ce phénomène-là, il y a déjà cette voix particulière des griots, mais celle de Candia, elle a cette vibration vraiment magique. Quoi.
Et dans le même temps, Florent Mazzolini, ces années 70, ce sont des années terribles. Hein. Vous disiez tout à l'heure que depuis 64, le vent avait sérieusement tourné en Guinée. Le pouvoir est très très dur, les ennemis sont désignés par le parti jusqu'aux intellectuels, il y a des purges. Comment les artistes se situent-ils dans cette extrême violence? Jusqu'où ont-ils conscience de la manipulation du pouvoir?
À partir de 71 et 72, qui correspondent peu ou prou aux grandes purges du régime de Sékou Touré, quelques artistes commencent à se détourner. Le statut d'orchestre national n'est plus aussi flamboyant qu'auparavant. Et il y a un autre événement, mais qui n'est pas vraiment politique, c'est le décès de Demba Camara, le chanteur du Bembeya Jazz, qui, à mon sens, va mettre un terme à l'âge d'or de la grande musique guinéenne, qui, pour schématiser, c'est 65-73. Et à partir de 73, les productions cellophones ne sont plus les mêmes. Il y a même une période durant laquelle... Et Sori Candia Kouyaté, le Bembeya, n'enregistre plus pendant quelques années. Il y aura un retour de Sori Candia Kouyaté, quelques enregistrements avant sa mort en 76. Mais pas mal d'artistes commencent à se détourner du régime. C'est d'autant plus paradoxal qu'un des groupes phares de la période s'appelle le Super Boiro Band, en référence au sinistre camp Boiro, la même où Keïta Fodéba et bien d'autres ont péri, qui étaient les geôles terribles de Sékou Touré. Et donc la production guinéenne s'en ressent, et on va dire que les disques sont toujours intéressants, mais il n'y a plus le même esprit, et les artistes commencent à se détourner à leur manière, puisqu'il ne faut pas froisser le président. Mais dans les disques guinéens à partir de 73-74, il n'y a plus trop de louanges du PDG, plus trop de louanges de Sékou Touré. On commence à évoquer d'autres problèmes, et c'est là que les influences également étrangères reviennent timidement. On ose quelques morceaux en français ou quelques réadaptations de morceaux afro-cubains. Et petit à petit, les artistes vont reprendre leur liberté artistique, en tous les cas, jusqu'à la disparition pure et simple de la Régie Siliphone avec le décès de Sékou Touré en 84.
À 2 heures de route de Conakry, se trouve la petite ville de Koya. C'est là, le 25 décembre 1977, que les spectateurs guinéens ont pu voir Kandia monter sur une scène pour la dernière fois.
Sur les traces de votre père, vous êtes allé, Kaby Kouyaté, de sa naissance au village de Monta jusqu'à sa mort, oui, sur scène, oui, à Conakry. C'est une séquence extrêmement forte dans ce film. J'aimerais que vous fassiez partager à nos auditeurs ce moment-là.
C'est un moment qui était très très fort pour moi. Il y a des gens qui vont à la pèlerinage pour évoquer la spiritualité, d'autres choses. Mais moi, c'était un grand pèlerinage, retrouver cet endroit avec des compagnons de mon père qui ont quitté depuis 1977, qui sont revenus en 2014 dans cet endroit. En rentrant là-bas d'abord, j'ai vu un autre monde, la réalité des choses. Voir ces anciens qui sont là, très émus, en me racontant comment le papa a vécu son dernier spectacle ce jour-là, c'était trop fort pour moi. Et ça m'a donné une autre force pour essayer de m'envoler sur mes propres ailes et dans la réalité, avec toutes sortes de bénédictions.
Kanya atote chum barako balang balang kui anaka bon ala toroman mameti naganto fen yarabe ni fahame ki bansang nganto
Donc c'était un moment très 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 fort en retrouvant cet endroit. J'ai entendu parler Koya, quelques kilomètres de Conakry, mais j'ai jamais mis mon pied là-bas. C'était ma première fois.
Mais effectivement, c'est plus fort que tout. Vous vous mettez à chanter. J'ai eu le sentiment que vous ne l'aviez pas décidé, que c'est votre voix qui est sortie.
Tout à fait, tout à fait. C'est ma voix qui a sorti, puisque cette voix-là, c'était la seule chose, puisque chez les griots, on ne pleure pas. Quand il y a un décès, quand il y a un grand griot qui meurt, ça s'accompagne avec une voix, avec la joie de la tradition. C'est ce qu'eux aussi, ils aiment. C'est ça qui bénit, qui est bénéfique. Mais c'était ma façon de pleurer. Donc, avec votre permission, je vais essayer de...
Oui, bien sûr, la permission, je vous la donne. Regardez, on a tout installé, le micro, Lingoni vous attendent. Nos opérateurs vidéo sont là, nous sommes prêts, nous vous écoutons.
Lingoni qui est là, c'était le premier instrument de mon père quand son papa a décidé qu'il fasse le griot avec toutes sortes de bénédictions. C'est cet instrument qu'il a été offert par un griot qui s'appelle Makan, qu'il a initié. Qu'il a appris à jouer cet instrument qui s'appelle le ngoni. Donc il m'a été remis par mon grand frère
Mamadou Kouyaté pour me confier l'héritage de la famille.
Soare sile tonoye kamaremba fe Sidi murado gawale ya kamaremba di ye mimana ba kale sidi murado gawale ya kamaremba di Sori kanja tununa ma nyara lubanta bi yo mi mana ni sikelezi di murado e wale ye kamaremba
Il a osé, le fils de Kandia reprendre Souarési qui est vraiment l'hymne, du papa griot, du grand griot de Guinée. Et ces instruments, donc les Ngoni, est-ce qu'il y a les deux instruments qui ont été donnés par votre père?
Cet instrument, ça c'est pour mon père. Celui-là, il est sacré. Je ne le fais pas sortir à tout moment. Il m'a été remis par la famille, précisément par l'aîné, Kouyaté Mamadou, qui est un médecin. Lui n'a pas chanté. Et celui-là, c'est moi-même qui l'a cherché. J'ai été au Mali pour l'accompagner avec cet instrument.
C'est un grand honneur que vous faites, RFI, à tous nos auditeurs. Merci, Kabi.
Merci. Il fallait que j'amène ça, puisque c'est ce que les griots demandent. Ce qui est fait sera dit, ce qui est dit sera fait.
Merci beaucoup, Kabi. Je vous invite à revenir au micro du plateau du Grand Studio, puisqu'il va être l'heure de conclure cette émission. Laurent Chevalier, également, si vous voulez bien, sur les traces de Kandia, Grand Prix du film musical Charles Cros.
Coup de cœur, en tout cas. Je ne sais pas si c'est un grand prix, mais ils ont appelé ça leur coup de cœur.
Merci à Florent Mazzoleni pour l'épopée de la musique africaine. C'est à lire, c'est passionnant, ces éditions hors collection. Et puis merci bien sûr au fils de Kandia, Kabi Kouyaté. Sori Kandia Kouyaté, c'est une édition musicale de La Marche du Monde réalisée par Cécile Pompeani. Son et vidéo assurée par Cyril Etienne, Christophe Valette, Fabien Mignuret, Mathias Taylor, Lorenzo, La Cassidane. Merci les garçons. Réagissez, écrivez-nous sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à notre podcast. Cette émission, c'est la vôtre.
فعرفوني قبل أن تعبدوني ومن لم يعرفوني فكفى يعبدوني كل ما عليها فاني وقبي لفل في مريلا لنه أقول مبرو مغلو ألو فارك يا كلام فلان نلو ملون ننقم مردون نينكا إلى تون تون تي أتبوا يكونا فدين كارو أي فارك يا لون نيما مغلو يبا أبادو أديرك I'm a woman, I'm a Fafina, what I would get any for now, don't kill him. Hello.